Alors, au sommaire des enjeux aujourd'hui, les enjeux internationaux, les résultats de la présidentielle en Ukraine.
Et oui, c'est donc bien l'acteur Volodymyr Zelensky qui sera le futur président de l'Ukraine. Il a battu franchement hier à 73% contre 24% le sortant de Petro Poroshenko, l'ex-oligarque au pouvoir depuis la révolution de 2014, donc évincé au profit d'un comédien inexpérimenté qui prend la tête d'un pays en partie en guerre pour plus ou moins de stabilité. En tout cas, il a annoncé vouloir relancer le processus de paix. On voit ça avec vous, Alexandra Goujon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne et à Sciences Po, spécialiste de l'Ukraine et Biélorussie. Donc, victoire d'un outsider qui ouvre aussi sur de nouvelles incertitudes. Il a promis pendant la campagne, Zelensky, de casser le système sans pour autant avoir de programme clair. Ce qui fait que ce score de 73% contre 24%, il y a 85% des bulletins dépouillés, c'est d'abord le succès d'une dynamique dégagiste ou une adhésion à Zelensky ?
Alors, on est plutôt, j'allais dire, dans un vote sanction, mais un vote sanction à l'égard du président actuel, Petro Poroshenko, qui va représenter l'élite politique qui s'est installée au pouvoir après l'indépendance, des professionnels de la politique qui sont pour la plupart soit comme Petro Poroshenko des hommes d'affaires ou qui ont des liens, on va dire, avec des clans oligarchiques et se sont constitués à partir du milieu des années du milieu des années 90.
Oui, parce qu'il y a donc... Je voulais dire, il y a d'un côté la progression de Zelensky, hein, qui était à 9% en décembre quand il s'est présenté, donc 73% là. Et puis de l'autre, Poroshenko, qui a quand même un peu progressé dans l'entre-deux tours, puisqu'il était à 15% au premier tour.
Tout à fait, qui a un peu progressé, mais bon, qui a obtenu un peu moins de 10 points supplémentaires. C'est très fréquent en Ukraine, hein, que le président sortant soit impopulaire. C'est pas une nouveauté. Et d'ailleurs, certains de ses prédécesseurs ne se sont pas représentés justement du fait de leur impopularité. Lorsqu'on parle par contre de dégagisme, la petite particularité par rapport à ce qu'on peut observer dans un certain nombre d'autres démocraties, c'est que la démocratie ukrainienne est fragile, assez fragmentée. Le parti du président actuel n'est pas un vieux parti politique installé avec une base sociale importante. C'est un dégagisme qui se fait quand même dans une société où il y a déjà eu des formes, j'allais dire, d'autres dégagismes, oui. Mais cette fois-ci plutôt par des révolutions.
Et de ce point de vue-là, pour bien situer ce vote, est-ce que Poroshenko, est-ce qu'il avait un si mauvais bilan qu'on veuille le sortir donc au bout de 5 ans? Il y a plusieurs spécialistes qui disaient c'est un bon président de crise en un sens, puisqu'il a fait le sauvetage financier, l'assainissement bancaire, les accords de Minsk, bon, avec les aléas de leurs applications, mais également un accord d'association avec l'Union européenne. Finalement, un bilan avec certains points assez positifs tout de même.
Oui, tout à fait. Je pense que le bilan n'est pas totalement négatif. Par contre, il y a une mauvaise communication, j'allais dire, politique, et surtout sur ce bilan, j'allais dire, et des signes. Il faut savoir que des signes, j'allais dire, négatifs. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a un journalisme d'investigation qui met en avant très régulièrement, les accointances entre le milieu politique et le milieu économique. On considère que Poroshenko, c'est quelqu'un qui s'est enrichi pendant sa présidence. Tout cela a été mis en avant. On a vu aussi l'effet phénomène d'évasion fiscale avec les Panama Papers. Et assez récemment, il y a eu notamment un scandale d'une personnalité dans son entourage, voilà, qui aurait vendu des armes à la Russie. Donc en fait, il y a un certain nombre comme ça de scandales qui ont entaché cette présidence. Et n'oublions pas que la dernière révolution, c'est une révolution de la dignité, centrée sur le respect du citoyen, l'état de droit. Et en termes d'état de droit, on considère que Poroshenko n'a pas fait assez. D'ailleurs, il s'est activé sur la question de la lutte contre la corruption et d'une cour anticorruption, vraiment sur la fin de sa présidence. Mais ça n'a pas suffi pour le faire remonter dans les sondages.
Oui, avec, comme vous disiez, également cette question de la mauvaise communication. Peut-être, on l'a vu lors du dernier débat, qui a eu lieu dans un stade vendredi, où Zelensky a quand même eu des attaques assez dures contre Porochenko, en lui disant, en somme, vous êtes l'homme le plus riche d'Ukraine dans un pays où tout le monde s'appauvrit.
Oui, tout à fait. Ça correspond vraiment à cet état d'esprit des citoyens ukrainiens. Et cela, c'est non seulement, à Kiev, mais surtout au niveau local, dans les villages, dans les petites villes, en fait, comme ça, où il y a des formes de barons locaux qui sont indéboulonnables. Et donc, c'est quelque chose que les citoyens peuvent ressentir ou en tous les cas interpréter. Chacun à leur niveau.
Alors, vous diriez aujourd'hui, qui a voté, qui vote et qui votera encore, puisqu'il y aura les législatives à venir, Zelensky, on a dit qu'il a été ultra majoritaire dans l'Est, et 87%, et le Sud, 85%.
Oui, tout à fait. Bon, après, dans l'Ouest, là où, il y avait plutôt un bastion pro-Porochenko, en raison notamment de son discours très patriotique, centré sur la foi, l'armée, la langue, hein, des valeurs, sur les valeurs nationales ukrainiennes, ce qui a, attiré les électeurs du Sud et de l'Est, c'est le discours rassembleur de Zelensky, qui a toujours dit que le président, il a beaucoup joué là-dessus, y compris pendant le débat, que le président Porochenko avait voulu diviser, que lui il voulait rassembler et justement essayer de faire en sorte de ne pas mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes, comme le problème de la langue qui a beaucoup divisé. D'ailleurs, Zelensky, ce qui a pu lui être reproché, c'est que il passe de l'ukrainien au russe, il utilise ces deux langues, et c'est vrai qu'on est dans un pays qui est bilingue, malgré une politique et une volonté d'installer quand même l'ukrainien face, à la langue russe qui aujourd'hui représente un petit peu le pouvoir de, comme le dit Porochenko, c'est cet agresseur. Mais il faut savoir qu'en Ukraine, il y a une partie des gens qui, notamment, ont combattu et combattent dans le Donbass et qui parlent russe, qui sont aussi russophones.
Oui, avec cette langue qui est donc un marqueur politique. Alors, on ne connaît pas son programme, on ne connaît pas trop qui le conseille, même s'il y aurait un ancien ministre des Finances, Oleksandr Daniliouk, plutôt libertarien, plutôt anticorruption a priori. Mais surtout, est-ce qu'il y aura plus ou moins de stabilité avec lui? Je le disais, donc le cap des législatives va passer en novembre, sinon avant. Pour l'instant, une assemblée qui ne lui est pas acquise. Et puis, c'est en de relancer le processus de paix avec la Russie, à quoi ça pourrait mener cela ?
Alors, d'un point de vue politique, on part sur une recomposition politique complète, quasiment. Zelensky n'a pas de parti politique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de partis politiques quand même qui sont installés, y compris celui des plus anciens aujourd'hui presque, c'est quand même celui de Yulia Tymoshenko, qui va sans doute revenir dans la bataille des législatives.
Oui, troisième au premier tour.
Est-ce que le président va dissoudre le Parlement ? Est-ce qu'il aura les moyens de le faire ? Ce n'est pas sûr du tout. Il a jusqu'au 27 mai pour pouvoir le faire. Sinon, les législatives auront lieu en novembre. Donc là, il y a déjà une grande incertitude. Il faut savoir que ce Parlement, il est composé de corps de députés. En tous les cas, les députés sont élus selon un scrutin mixte. Donc il va aussi qu'il va falloir trouver au niveau local des personnes pour le soutenir. Donc là, il y a une grande incertitude politique. On risque quand même d'avoir un Parlement où Zelensky n'est pas nécessairement une majorité de députés. Donc il va falloir créer des coalitions. Il lui a déjà posé des questions. Il ne veut pas s'allier avec les députés de Porochenko. Il ne veut pas s'allier avec ce qu'on appelle le clan plutôt des pro-russes, en tous les cas de l'ancien président Yanukovych, de ses soutiens. Donc voilà, une recomposition politique à venir, et quelle marge de manœuvre va avoir Zelensky en tant que président pour gouverner, sachant qu'aujourd'hui, il y a un Premier ministre avec lequel il va falloir qu'il compose pour quelques semaines, ou en tous les cas pour quelques mois, et son changement va être difficile. Concernant les accords de Minsk et le Donbass, là, en quelque sorte, il peut relancer le processus de paix. D'ailleurs, lorsqu'il était venu voir Emmanuel Macron le même jour que Petro Porochenko récemment, les accords de Minsk ont été évoqués. Il doit y avoir une réunion prochainement, sachant que voilà, ce sont aujourd'hui les négociations patinent, parce que quand même, l'acteur principal dans cette histoire, c'est pas forcément l'Ukraine, mais c'est surtout la Russie. C'est quand même la Russie qui soutient les séparatistes dans l'est du pays. Et est-ce que la Russie va profiter de Zelensky pour éventuellement voilà, lâcher du lest et faire comprendre qu'il faut une réintégration de ces régions dans l'État ukrainien, mais là encore beaucoup d'incertitudes sous quelles conditions, et là le processus pourrait prendre énormément de temps. Zelensky lui-même l'a reconnu.
Oui, avec comme premier geste potentiel un échange de prisonniers. Il a aussi été question de l'application d'une proposition de l'OSCE pour avoir des casques bleus dans le Donbass. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Toute une nouvelle politique sans doute qui va se mettre en place. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et Sciences Po, et bien sûr spécialiste de l'Ukraine. Merci, bonne journée.